Je vous invite à trouver dans vos Bibles 2 Samuel 24, ce que nous venons de lire. C'est le dernier chapitre de ce livre, de ces deux livres de Samuel. Et puis, si vous avez un marque-page, vous pouvez aussi trouver 1 Chronique chapitre 21. Parce qu'il y a deux chroniques, il y a deux récits de cette même histoire. Et nous allons consulter les deux en considérant la colère et la grâce divine. Et je commence avec cette question. Dieu, selon vous, Dieu est-il un Dieu de colère? Est-ce que Dieu est un Dieu qui démontre sa colère dans l'éternité, mais aussi dans le temps actuel? Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, pour préparer la réouverture des écoles, a publié un article à l'attention de tous les professeurs intitulé « Covid-19 et les risques de dérive sectaire ». Et dans cet article, il dit qu'il incombe à l'enseignant d'identifier, je cite, « l'exploitation de la pandémie par des groupes sectaires ». Durant la période de la crise sanitaire, les enfants sont exposés à des discours anxiogènes, particulièrement lorsque leurs parents adhèrent à un groupe sectaire. En effet, la pandémie mondiale est présentée par certains prédicateurs, gourous ou idéologues comme, et ils donnent plusieurs options, la révélation de la volonté et de la puissance divine, un avertissement de la nature, de forces obscures ou d'esprits divins, un châtiment envoyé par Dieu et le signe de l'imminence de l'Apocalypse, le retour à la croyance comme seule solution salvatrice. Et le but donc de cet article et le but de ces profs est de s'interroger dans un monde où croyance et connaissance se confondent et parfois s'opposent, afin de développer, je cite encore, un esprit rationnel, autonome et éclairé pour chacun des élèves. Fin de citation. Alors je suis sûr que pour la majorité de nos concitoyens, l'idée qu'un malheur puisse être le châtiment de Dieu, ou que le retour à la croyance, surtout à une croyance dans la personne historique de Jésus, de Nazareth, est la seule solution salvatrice, et non seulement aux antipodes d'un esprit bien éclairé et autonome, mais complètement absurde et même immoral. Dieu, diront-ils, est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de paix, pas de colère. Mais je vous demande de lire avec moi le premier verset, 1 Samuel, chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda ». La colère de l'Éternel s'enflamma. Nous avons ici deux mots qui sont souvent utilisés séparément pour exprimer la colère. Et quand le texte en hébreu met les deux ensemble, ces deux termes pour la colère, ça démontre une... C'est pour accentuer la démonstration de colère. Et donc, nous avons cette traduction, la colère de l'Éternel s'enflamma ou s'alluma ou s'embrasa dans une autre traduction. Et donc, nous allons considérer premièrement la colère divine. Il y aura deux grands points, la colère divine et puis la grâce divine. Mais d'abord, on commence avec la colère divine. Et j'aime beaucoup cette histoire, ici à la fin de 2 Samuel, parce que je pense que nous avons dans cette histoire, en microcosme, toute l'histoire de la Bible. La Bible, vous savez, la Bible nous donne l'histoire de la création, et puis de la chute de l'homme, son péché, la malédiction de Dieu qui va entraîner encore plus de péchés, des difficultés relationnelles, même la mort. Et puis la grâce de Dieu qui va vaincre sur le péché, et ce sauveur qui va venir nous sauver, préfiguré par un sacrifice substitutionnel et propitiatoire. Et tous ces éléments se trouvent dans ce chapitre. C'est un peu un représentatif ou une représentation à petite échelle de la structure qui est la Bible. Mais l'histoire commence, son instigatrice même est la colère de Dieu. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Dieu est un Dieu qui démontre sa colère. Ce passage a été utilisé, vous pouvez le deviner, par ceux qui veulent porter atteinte à la justice de Dieu pour dire que Dieu a incité David à pécher. Et puis il s'est mis en colère contre David parce qu'il a péché. Et puis dans sa colère, il a puni le peuple. Et dans cette compréhension du texte, Dieu devient trois fois injuste. Il est injuste parce qu'il incite David à pécher sans justification. Il est injuste une deuxième fois parce qu'il se met en colère contre David qui n'y était pour rien. Et il est injuste une troisième fois parce qu'il va punir le peuple pour le péché de David. Vous savez, l'homme est incurablement suspicieux à l'égard de Dieu. Dès qu'il trouve quelque chose qui peut peut-être remettre en question la justice de Dieu, ou la bonté de Dieu, ou l'amour de Dieu, ou sa fidélité, ou sa sainteté, il le saisit, il l'agite un peu comme une bannière et il crie « Je tiens maintenant Dieu, j'ai quelque chose contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour prouver ton innocence ?» Mais avant de penser que vous avez le pied sur le cou de Dieu et avant de crier victoire, rappelez-vous qui est Dieu. Dieu est esprit, infini, éternel et immuable, dans, vous pouvez le dire avec moi ici, dans son être, sa sagesse, sa puissance, sa sainteté, sa justice et sa vérité. Croyez-vous cela de Dieu ? Dieu ne tente pas David arbitrairement à faire le mal par caprice et puis le frappe vicieusement pour avoir suivi son conseil. Imaginez que votre meilleur ami, que vous connaissez depuis des années, il vienne vous voir un jour et il vous dit « Je viens d'entendre quelque chose qui, à première vue, implique que tu as peut-être agi d'une manière injuste. J'ai conclu donc que tu es injuste, malhonnête et méchant. Et de plus, je l'ai publié sur Facebook, Instagram, et j'ai envoyé un mail à tous les contacts dans ma liste. Que penserez-vous d'un tel ami ? Vous ne voudriez pas lui dire, mais après toutes ces années d'amitié, tu me connais si peu. C'est tout ce qu'il te faut pour que tu remettes en question mon caractère. Et donc je vous pose la question, ne connaissez-vous pas Dieu mieux que de vous mettre dans la honte pour lui, de vous dire « Oh non, pourquoi il a dû lire ce verset ?» ou « Qu'est-ce que Dieu fait là ?» Vous savez, même ses meilleurs amis sont incurablement suspicieux à l'égard de Dieu. Même nous, il faut l'admettre, quelque chose se passe dans notre vie, tout de suite, nous sommes tentés à questionner la bonté ou la justice de Dieu. Je suis sûr donc que vous n'avez pas besoin d'explication. Si Dieu est en colère, c'est qu'il a bien raison de l'être. Mais pour vous aider à répondre à ceux qui voudraient accuser Dieu, notez juste au moins deux choses ici, que la colère de Dieu s'enflamme avant qu'il incite David à dénombrer le peuple. Vous avez noté cela ? C'est pas après, ce n'est pas que Dieu pousse David à faire quelque chose et puis qu'il se fâche après coup. L'incitation à dénombrer le peuple et donc l'expression de la colère de Dieu provoquée auparavant. C'est très clair au verset 1. Et puis, notez deuxièmement que la colère de Dieu s'enflamme contre le peuple, là, au verset 1. Non pas contre David en premier lieu. Donc, quand vous voyez plus tard dans le chapitre que le peuple meurt, c'est parce que Dieu était enflammé de colère contre eux, pas en premier lieu contre David. Et donc, on va le considérer sous ces aspects. On considère la colère divine, et c'est des sous-points. Premièrement, la source de la colère divine. Quelle est la source de la colère divine? Et elle est le péché du peuple. La source de la colère divine et le péché du peuple. Notez le verset 1. La colère de Dieu s'enflamma de nouveau contre Israël. Il dit que la colère de Dieu s'enflamma de nouveau. Cela nous renvoie donc à quelque chose qui s'est déjà produit. Et nous savons qu'au chapitre 21, vous n'avez pas besoin de le chercher, mais que Dieu avait envoyé une famine dans le pays qui dura 3 ans. C'est un fléau que Dieu a déjà envoyé dans le pays. Mais les deux autres fois que nous voyons la colère de Dieu dans ces livres de Samuel sont la colère de Dieu contre les Amalécites, que Dieu veut détruire complètement, et vous savez que Saül refuse de le faire. Et puis sa colère contre Uzza. Et je lis 2 Samuel chapitre 6 verset 7 qui utilise exactement la même formule. Il dit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. » Uzza mourut là près de l'arche de Dieu. Sa faute était de toucher l'arche sacrée de Dieu. Nous pouvons dire donc sans aucun doute que la source de la colère est le péché humain. David le dira directement par rapport à son acte. Si vous regardez le verset 10, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. » Et le fait que le péché spécifique du peuple dans ce cas ne soit pas mentionné ne change rien à ce fait. Dieu démontre sa colère contre le péché. Alors je vous demande de vous poser la question, sommes-nous conscients que le péché est vraiment grave? Que Dieu ne reste pas indifférent à notre péché? Écoutez le psaume 7. Les versets 12 et 13. Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Si le méchant ne revient pas à lui, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Ce sont des mots forts. Tous les jours, Dieu fait sentir sa colère. Nous avons passer toute notre vie à nous défendre, à nous excuser, à nous justifier. Nous sommes si fiers de nous-mêmes que nous avons convaincu nous-mêmes que nous sommes justes. Et donc nous sommes choqués quand Dieu n'est pas lui-même convaincu par notre autodéfense et que Dieu pense que nous sommes pires que nous voyons nous-mêmes. Mais Galates 6, verset 7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne peut pas se moquer de Dieu. Et 1 Jean 3, 18 dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé. C'est Jean 3, 18, pardon. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il y a des hommes et des femmes et des enfants qui sont aujourd'hui, à l'heure actuelle, déjà jugés par Dieu dans sa colère. La genèse du problème, donc, c'est le péché du peuple. Comme Uzza, au début du règne de David, ils ont enflammé la colère de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais d'où vient la mort? Moïse, des centaines d'années avant David, a donné la réponse dans le seul psaume qu'il a écrit, le psaume 90. Il dit au verset 7, « Nous sommes consumés, il parle de la mort, nous sommes consumés par ta colère. » Et c'est le même mot qu'en 1 Samuel 24, verset 1. « Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. » Notez que cette force derrière la mort qui est si constante, hein, la mort continue s'il y a virus ou non. Les gens continuent à mourir et la force derrière cette mort si constante n'est pas une loi impersonnelle, mais la colère personnelle, actuelle, active de Dieu. Nous sommes, l'homme meurt à cause de la colère de Dieu contre lui. Moïse dit, tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Et c'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais Moïse dit, tu mets devant toi tout ce que nous tentons de cacher. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nous achevons nos années comme un murmure. Il n'y a rien de si terrible que de mourir dans ses péchés déjà jugés par Dieu. La prédication de la colère de Dieu contre l'homme pécheur est absolument essentielle à la compréhension et à l'appréciation de l'Évangile. À quoi ça sert si je vous disais, voilà comment gérer cette crise sanitaire. Quand vous levez le matin, vous allez dire 10 fois devant le miroir, vous allez dire, le Covid-19 n'existe pas. La maladie n'existe pas. La mort ne viendra jamais. Alors vous dites ça 10 fois, le Covid-19 n'existe pas, la maladie ne viendra jamais, je ne connaîtrai jamais la mort. À quoi ça sert d'encourager les gens à dire de telles bêtises? Et dans le domaine spirituel, c'est 1000 fois, 100 000 fois plus sérieux. À quoi ça sert de se leurrer d'une réalité infaillible que nous ne pourrons pas échapper, la mort? Vous êtes pécheurs, Dieu est saint, vous êtes déjà jugés, vous êtes condamnés. Il n'y a pas de petit péché mignon. La colère de Dieu est inévitable. Et cela me peine de vous voir vous amuser à mourir sans Dieu et sans espoir. La colère de Dieu est une réalité. C'est à cause du péché, la source de la colère de Dieu, c'est le péché. Mais notez deuxièmement, considérant toujours la colère de Dieu, les outils de la colère divine. C'est une chose surprenante ici. Les outils que Dieu va utiliser pour démontrer sa colère. Le premier outil, vous l'avez noté certainement, le premier verset. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David. David est donc un des outils de la colère de Dieu. Le péché du dénombrement que fera David dans ce chapitre, était-il simplement le fait de le faire? La Bible n'est pas très claire, elle ne nous dit pas où exactement se situe le péché de David. Nous savons que Dieu ne tente jamais quelqu'un à pécher. Nous savons d'ailleurs qu'un dénombrement n'est pas en lui-même un péché. Nous avons même un livre de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, qui tire son nom du dénombrement, enfin de deux dénombrements qui se font, un au début de ce livre et un deuxième la génération suivante à la fin de ce livre. Donc est-ce que c'était la motivation derrière ce dénombrement? Ou est-ce que c'était la manière de faire ce dénombrement? Écoutez Exode 30, versets 11 et 12. L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement. » Vous voyez, nous sommes dans le bon contexte ici. Et Dieu dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne afin que, écoutez bien, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. » À la lumière d'Exode 30, donc, les versets 11 à 16, il est probable que le péché fut celui, en outre la motivation de David, mais de ne pas le faire de la bonne manière, c'est-à-dire sans rachat. La menace en Exode est celle d'une plaie, ce qui s'est passé dans ce chapitre. La résolution arrive lorsqu'un sacrifice payé avec l'argent de David est offert. Et Dieu avait dit qu'il fallait qu'un rachat soit payé lors de ce dénombrement. Mais vous voyez ce que ça signifie par rapport au dénombrement des peuples? David pensait que le dénombrement servirait à démontrer sa puissance. J'ai une grande armée maintenant, peut-être, il se disait. Regardez tous ces gens. Et Dieu dit, plus vous avez de gens, plus la malédiction va s'abattre sur vous si vous n'avez pas d'expiation. Plus vous avez de gens, plus vous devez expier pour les péchés de ce peuple. Nous sommes tellement pécheurs aux yeux de Dieu que même pour compter nos têtes, il faut faire quelque chose rapidement. Même pour qu'il me remarque et qu'il prenne note de moi, pour m'inclure dans le nombre, cela exige une expiation. C'est notre péché. David devient donc un outil de la colère de Dieu. Le peuple est donc l'objet de la colère de Dieu. David sera son outil, comme il va utiliser Nebuchadnezzar plus tard. C'est donc pas que Dieu incite David à pécher, mais que David le fait de la mauvaise manière et dans l'orgueil. Dieu est forcément la première cause ici. Dieu est le seul qui parle. Dieu est en colère. Dieu se sert de qui il veut pour exercer sa colère. Dieu peut se servir du péché de l'homme comme un outil de sa volonté. Pensez au mariage de Samson avec une païenne. C'était pas la bonne chose à faire. Mais Juges 14, verset 4 dit « Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. » Pensez à la vente de Joseph comme esclave en Égypte. Chose terrible. Mais Joseph lui-même dira plus tard, c'est Dieu qui m'a amené ici. Vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a fait même pour votre bien. Il s'est servi de votre péché pour vous nourrir maintenant. Vous pensez à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Le péché le plus horrible de toute l'éternité. Et pourtant, par ce péché, nous trouvons notre salut. Mais David n'est pas le seul outil de la colère de Dieu. Et c'est ici, si vous avez gardé, si vous avez trouvé 1 Chronique 21, je vous invite à trouver maintenant, à ouvrir vos Bibles là et regarder le premier verset de ce chapitre. 1 Chronique, chapitre 21. Alors, on commence avec qui ici? On ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de David, on parle de qui? On parle de Satan. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan, deuxièmement, est donc un outil de la colère de Dieu. Selon ce passage parallèle, Satan sera l'outil pour exciter David. Dieu se servira de Satan plus tard, vous savez, pour inciter Judas à trahir Jésus-Christ et accomplir ainsi sa volonté. Est-ce que c'est Dieu donc ou est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est Dieu qui incite David ou est-ce que c'est Satan? Les deux thèses ne s'excluent pas mutuellement. Dans l'univers de Dieu, il est impossible d'échapper aux limites extrêmes de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain sur toute chose. Que sa volonté providentielle sur le diable soit présentée comme permissive, comme avec Job, où Dieu permet à Satan de faire quelque chose, ou même plus directive, c'est Dieu qui est quand même aux commandes. Et dans sa colère, Dieu donne un accès à Satan pour tenter David d'une façon particulière. Ici, donc, on pourrait dire que dans sa colère, Dieu livre David à Satan et le peuple au péché de David. Le peuple a péché, donc ils vont être livrés au péché d'un autre, de leur gouverneur, et David lui-même sera livré aux tentations de Satan. C'est pour ça que Jésus nous a dit de prier sérieusement, de ne pas nous induire en tentation, mais de nous délivrer du malin. Notez ce qu'il a fait avec David ici. Mais la raison ultime pour toutes ces morts demeure la colère de Dieu contre le peuple. Donc nous avons David, nous avons Satan, mais pour avancer, notez troisièmement comme outil, je ne sais pas trop bien comment l'exprimer, mais c'est très important, donc suivez s'il vous plaît ce que j'essaye de dire ici, c'est l'abandon au péché et a ses conséquences. L'abondance, c'est Dieu ici qui nous abandonne à nos péchés et puis à ses conséquences, les conséquences de ses péchés. Très souvent, Dieu démontre sa colère envers le pécheur en le livrant, écoutez bien, en le livrant à encore plus de péchés. C'est une vérité qui devrait faire trembler tous ceux qui aujourd'hui jouent avec le péché et se moquent de la colère de Dieu. Proverbe 22, verset 14 dit « La bouche des étrangères » il parle ici des prostituées ici. « La bouche des étrangères ou des prostituées est une fossé profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité » une autre traduction est « furieux » il tombera. Vous voyez ce que Dieu dit ici? Elle est la fosse, mais qui tombe dans la fosse? Celui contre qui l'Éternel est irrité ou furieux. Proverbes chapitre 7, les versets 21 et 22 parlent encore de cette prostituée. Elle dit, elle séduisit, elle parle de ce jeune homme, et elle arrive, elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la moucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. Ces images suggèrent que l'homme est déjà fou et que la femme adultère est elle-même le châtiment de Dieu. C'est elle que Dieu utilise pour, si vous voulez, l'amener à la boucherie. C'est elle que Dieu va utiliser pour le lier et pour le fouetter et le châtier. Et bien qu'il y a des conséquences à l'adultère, et le passage on en parle, hein, Proverbe 7, nous voyons aussi que l'adultère est en lui-même un châtiment de Dieu envers ceux qui se détournent de lui. Écoutez Ecclésias 7, verset 26. J'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dans les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur est pris par elle. Sommes-nous conscients que le péché est plus grand que nous? Nous ne pouvons pas résister seuls au diable, à ses tentations, même à notre chair. La Bible dit que nous sommes en fait esclaves de ces choses, que nous marchons selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air et le prince de la puissance de l'air. Et que seule la puissance de Dieu peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire, dans l'allégresse et dans la joie. Comment peut-on donc se tourner le dos à Dieu et penser qu'on peut se préserver nous-mêmes de même les pires des péchés? On peut aussi penser à Romains 1. Si vous le trouvez facilement, vous pouvez le trouver avec moi. Sinon, écoutez Romains 1, où Dieu livre ceux contre qui il est en colère à des péchés. Romains 1, verset 21, parle de ces gens qui rejettent Dieu, et dit, car ayant connu Dieu dans la création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Notez le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Vous voyez, dans le jugement de Dieu, il livre des gens à quoi? À l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Oui, Dieu dit, vous voulez aller dans cette direction? Je vais donc te laisser partir. Regardez le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Regardez le verset 28. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. La colère de Dieu se montre dans ce sens qu'il nous livre même aux tentations de Satan et aux péchés de notre propre chair. C'est pour ça que la Bible dit que la colère, ne vous endormez pas en colère, de peur de laisser donc une ouverture à Satan. C'est la même chose avec Adam et Ève, car la malédiction consiste en partie du péché de l'un contre l'autre. Dieu dit, une des malédictions, c'est que vous allez vouloir dominer, mais l'autre va dominer, vous aurez ce conflit. Vous allez goûter maintenant de vos propres péchés. Quand nous refusons de nous repentir, quand nous choisissons de continuer à pécher, Dieu nous livre à nos péchés pour commettre encore plus. Pour devenir encore plus esclaves de nos propres convoitises, nous souffrons des conséquences de nos propres péchés et des péchés des autres. Pourquoi tant de péchés? Pourquoi le péché s'accumule et s'augmente? Pourquoi les gens sont liés? C'est Dieu qui livre ces gens à leur propre convoitise. C'est la colère divine. Mais notez deuxièmement la grâce divine. La grâce divine. Je lis d'abord au verset 10 de Samuel 24. Je reviens de Samuel 24, verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Quelle belle repentance. Pas d'excuse. Il se repente. J'ai complètement agi en insensé. Et nous voyons que Dieu n'a pas livré David complètement à Satan. Nous voyons la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Car c'est Dieu qui fait battre son cœur. Comme Pierre qui chute, mais Jésus dit à Pierre, même avant, il dit, « J'ai prié pour toi. » Nous voyons donc la grâce divine, premièrement, dans la conviction du péché, et dans la repentance de David. Ça, c'est la grâce divine. Quelle belle image. Voyez ça au verset 10. David sentit battre son cœur. Sans battre son cœur. C'est un sentiment, c'est un phénomène qu'il avait déjà connu lorsqu'il était encore jeune et qu'il fuyait de Saül. 1 Samuel 24, verset 6, nous dit qu'après cela, David sentit battre son cœur parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. C'est la même expression ici. Il sentit battre son cœur. David connaissait ce que c'est d'avoir le cœur troublé à cause du péché. 1 Jean 3, 20 dit, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Je vous pose la question, connaissez-vous ce que c'est d'avoir votre cœur qui vous condamne? C'est un phénomène biblique, c'est un phénomène spirituel. Le Saint-Esprit agit comme cela pour que nos cœurs nous condamnent. Cela démontre, si vous le connaissez, que l'œuvre de la loi est écrite dans votre cœur, comme dit Romains 2. Jésus a dit en Matthieu 5, 4, « Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont affligés à cause de leurs péchés, heureux ceux qui connaissent ce battement de cœur. » Le psaume 119, 136 dit « Des larmes coulent de mes yeux parce qu'on ne respecte pas ta loi. » Et 2 Timothée 2, 25 dit que le pasteur doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. Ça, c'est la grâce donc de la conviction, la grâce de la repentance que nous voyons dans cette histoire de David. Nous voyons deuxièmement la grâce dans le choix de fléau. Dieu lui donne donc trois choix. Il dit, verset 12, va dire à David, ainsi par l'Éternel, je propose trois fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Et notons que les conséquences viennent après que David s'est repenti. Nous pouvons nous repentir comme David a fait de son péché avec Bathsheba, mais il y a eu quand même des conséquences toute la vie. Il faut accepter cela. Et ici, c'est le cas aussi. Et puisque la colère de Dieu était sur tout le peuple à cause d'un péché non détaillé, les conséquences que Dieu propose sont chacune de portée nationale. Et le choix de David, c'est au verset 4, il répondit à Gad, il dit « Je suis dans une grande angoisse, ô tombons-nous entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Il y a une différence pour David entre une attaque terroriste et une crise sanitaire. Dans ce sens, nous sommes plus directement entre les mains de l'Éternel. Il n'y a même pas un intermédiaire humain entre Dieu et nous qui nous frappe. Nous sommes entre les mains de l'Éternel. Et nous ne voulons pas que cette crise du Covid-19 termine par une simple victoire humaine pour que le monde puisse dire « Nous avons trouvé ensemble le remède. Nous avons trouvé le vaccin. Voyez, nous sommes plus forts que tout ce qu'on peut nous lancer. » Quelle tristesse si cette crise termine ainsi. Nous voulons que Dieu œuvre dans les cœurs des hommes pour leur amener à la repentance, pour voir qu'ils ont affaire avec Dieu, que si ce n'est pas à cause du Covid, ce sera autre chose que Dieu utilise pour les faire entrer dans l'éternité, où il n'y aura plus de retour, plus d'espoir pour changer de lieu. Et donc nous voyons la grâce de Dieu de tomber entre ses mains, car il est plein de compassion. Vous voyez la grâce même de Dieu que David reconnaît. Ses compassions sont immenses. Ses compassions sont immenses. Et nous voyons finalement la grâce dans l'apaisement de sa colère. La grâce de Dieu dans l'apaisement de cette colère divine. Dieu va démontrer sa colère et puis va apaiser sa colère. Notez comment Dieu dirige tous les détails pour que David fait un geste très spécifique à un endroit très spécifique. Et pour cela, je vous invite à revenir en 1 Chronique 21. Nous allons terminer dans ce texte, en 1 Chronique 21. Et je lis au verset 14, « L'Éternel envoya la peste en Israël. » Tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour détruire, et comme il détruisait, l'Éternel se regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornon, le Jébusien. C'est un païen. Il a deux noms. Et verset 16, David leva les yeux, et il vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sac tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'il ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » Et vous allez voir que David ne va pas recevoir la plaie. Dieu a choisi un autre substitut. Verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornon le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Notez cette démonstration spectaculaire de la grâce de Dieu. D'abord, c'est Dieu qui suggère l'offrande, il lui dit où de le faire, et maintenant, il va démontrer sa grâce en l'acceptant. Verset 26, 1 Chronique 21, verset 26, « David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. » Souvent, quand on pense au feu qui descend, nous pensons à Élie, qui viendra plus tard dans l'histoire. Mais ça s'est déjà arrivé lorsque le tabernacle a été construit. Et le premier sacrifice, Dieu envoie son feu. Plus tard, quand le temple sera construit, le premier sacrifice, Dieu enverra encore le feu du ciel pour recevoir. Ça s'est arrivé aussi à Gédéon. David ici voit cette démonstration miraculeuse et céleste du feu qui descend et qui ne consume pas le peuple, qui ne consume pas lui-même ni sa famille, mais qui consume le sacrifice qui est offert à Dieu à leur place. Alors l'Éternel parla à l'ange, verset 27, qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan le Jébusien, il offrit des sacrifices. Le lieu ici devient très très important. Verset 29. Mais le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Et David dit, continuez la lecture, premier verset du prochain chapitre, et David dit, ici sera la maison de l'Éternel, Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Et puis commence tout un chapitre sur les préparatifs du temple. Il est intéressant que David, par crainte de la colère du Seigneur, ne se rend pas à Gibeon, je crois que c'est, mais il se rend à l'endroit où il a vu l'ange même de l'Éternel, ce lieu choisi pour sacrifier à Dieu, là où il a vu le feu descendre et accepter le sacrifice. Pourrait-il que bien que ce soit l'endroit où il voyait, il se rappelait de son péché, c'était aussi l'endroit où la miséricorde de Dieu avait été si merveilleusement manifestée. Et voici l'endroit où la grâce de Dieu est démontrée d'une façon spectaculaire. Voici l'endroit où sera construit le temple. Toute cette histoire est là pour quelque chose. Elle est là pour choisir le lieu du temple, pour que Dieu puisse démontrer où il va mettre son nom. C'est un endroit choisi par Dieu. Je vous lis le psaume 78, verset 66. Cependant, il rejeta la tente de Joseph. Il ne choisit pas la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. C'est cet endroit même. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Dieu a choisi cette montagne. Elle devient la montagne de Sion. Elle devient la ville sainte, mise à part par Dieu lui-même. Et l'histoire qui va démontrer où se trouve cet endroit, l'histoire commence avec le péché du peuple qui suscite la colère de Dieu. Mais termine avec la grâce de Dieu qui identifie et sanctifie par cette offrande le lieu où il a choisi de mettre son nom. Vous pouvez aller voir sur Internet les images de cet endroit, encore aujourd'hui, à Jérusalem. C'est un endroit très spécifique. C'est une manière intéressante pour Dieu d'indiquer l'endroit où il veut mettre son nom, n'est-ce pas? Ce sera la maison de l'Éternel. Mais il la met là où il choisit de démontrer sa grâce à l'homme. Je crois que c'est exprès. Il veut démontrer pourquoi le temple est là. Il y a le péché de l'homme, il y a la colère de Dieu, mais il y a la grâce qui se démontre dans ce sacrifice qui est offert à la place du peuple. Et Dieu accepte le sacrifice et il donne vie à son peuple. Là, sur le mont du temple, où le péché abonde, la grâce a surabondé. J'aime cette histoire, comme j'ai dit au début, parce que je pense que nous avons dans ce seul chapitre un microcosme de toute l'histoire de la Bible. Que ce chapitre, qui appartient bien sûr à une structure plus vaste, mais qui est représentatif à petite échelle de toute la Bible. Parce qu'après la création, nous avons la chute de l'homme, le péché de l'homme, nous avons la malédiction de Dieu qui a entraîné l'homme dans encore plus de péchés, mais la grâce de Dieu qui va vaincre sur la malédiction par l'envoi d'un sauveur. Et ce sauveur est préfiguré, il est annoncé par ce sacrifice substitutionnel. Tous les éléments se trouvent dans ce chapitre. On aime penser que Dieu nous aime et que Dieu nous utilise parce que nous sommes méritoires. Mais ici, nous voyons que tout est grâce. Même nos péchés, il peut les utiliser pour sa gloire. Et peut-être aujourd'hui, vous souffrez déjà des choix que vous avez faits dans le passé. Vous souffrez vraiment des péchés que vous avez commis. Sachez que comme avec David, Dieu peut se servir même de ces conséquences de votre péché pour démontrer encore plus sa grâce et sa gloire et sa bonté et son amour. Quand David a senti battre son cœur, il s'est repenti. Alors je vous demande, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Il n'y a que deux possibilités. Soit vous vous convertissez, soit vous vous endurcissez. Et je termine avec cette lecture de Hébreux chapitre 3. Écoutez la parole de Dieu à partir du verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Mais ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Alors je pose pour vous poser la question, quelle était donc la réponse de Dieu envers ceux qui s'égarent? Il est irrité contre eux, mais il persiste à s'égarer loin de lui. Quelle sera la réponse de Dieu? Écoutez, ces mots très tristes, verset 11. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Jamais. Vous êtes barré de la vie, barré du ciel. Et donc le verset 12 dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, même peut-être à cause de sa colère, mais si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que si vous venez à Christ, et je vous en supplie de le faire, vous allez voir dans votre propre vie que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Prions. Notre Père Céleste, ce sont tes paroles et c'est ton esprit qui doit maintenant agir. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et donc nous supplions simplement que la semence de ta parole ne soit pas enlevée par les soucis du siècle, par les événements de la journée même, mais que ta semence prenne racine en nous et porte du fruit dans la repentance et du fruit pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la victoire au siècle des siècles.